Paris Live with me. Today's headlines.
Accent du monde. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Accent du Monde, où comment l'actualité de la semaine a-t-elle été perçue par les différentes rédactions de RFI. Ce soir à nos côtés, en studio, Lucille Gimbert de la rédaction hispanophone.
Buenas tardes.
Elena Gabrielian de la rédaction russe.
Dobry vecher.
Et Matej Wisniewski de la rédaction langue roumaine.
Buonasera.
Bonsoir à tous les trois. Dans Accent du Monde, nous poursuivons notre journée spéciale sur RFI à un mois du second tour de la présidentielle française. La campagne bat son plein, une campagne aussi inattendue qu'incertaine. Comment cette campagne justement est-elle vue de l'étranger? Ce qui fait la une cette semaine, c'est le débat télévisé qui a été organisé mardi entre les 11 candidats. C'était une première dans l'histoire de la Ve République en France. Lucille Gimbert, comment la presse d'Amérique latine a-t-elle réagi à un tel exercice?
Ce fut la soirée des petits contre les grands, la soirée durant laquelle les petits ont accusé les grands de corruption et d'abus devant plus de 6 millions de téléspectateurs. Voilà ce qu'écrit par exemple la correspondante à Paris du quotidien argentin qui a le plus gros tirage dans le pays, Clarine, au lendemain de ce débat. Pour la presse d'Amérique latine en général, le débat à 11 a été long et chaotique, épuisant, écrit même un autre titre de Buenos Aires, El Diario Registrado. Plus riche car moins politiquement correct, estime pour sa part l'agence de presse Telam, tandis que l'agence basée à Cuba, Prensa Latina, elle considère que ça l'a permis d'insuffler un peu de justice dans cette campagne, puisque les candidats, ceux qui ont très peu de chances d'accéder finalement à l'Élysée, ces petits candidats, comme on les appelle ici en France, ont pu se montrer. Un ex-paysan des Pyrénées devenu député et maire, deux trotskistes, deux anti-européens et un éternel candidat nationaliste et conspirationniste. C'est ce que rapporte le journal Clarine, qui a bien noté que Jacques Cheminade est né à Buenos Aires.
Et justement, du côté de ces candidats dits petits, la presse latino-américaine n'a pas manqué de souligner la prestation d'un de ces candidats, celle du candidat anticapitaliste Philippe Poutou.
Oui, d'ailleurs, certains titres citent directement les attaques du candidat mécanicien chez Ford contre le conservateur Fillon et contre la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. La presse latino rapporte aussi que selon une étude d'opinion réalisée au sortir du débat, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a été jugé le plus convaincant par les téléspectateurs. Une réussite qui confirme donc cette bonne dynamique qu'on voyait dans les derniers jours pour le candidat de la France insoumise. La presse conservatrice latino-américaine est sévère à propos de Mélenchon. Elle parle d'un néo-populiste de gauche pour l'Argentin Clarine, le Mexicain très marqué à droite, El Sol de México, lui, le décrit comme un candidat irascible et fréquemment autoritaire. Mais globalement, pour les médias d'Amérique latine, ils lui reconnaissent tout de même ses talents d'orateur et ils soulignent que pour 26% des Français interrogés justement après avoir suivi ce débat, il est celui qui comprend le mieux leurs préoccupations.
Ce débat entre les 11 candidats à la présidentielle française qui a été également suivi de près en Russie, Elena Gabrielian, comment les médias russes ont-ils réagi à ce grand débat?
Alors, il faut le dire que même si ce débat était principalement consacré à la politique intérieure, les médias russes se sont activement intéressés de leurs résultats. Ils ont mis l'accent sur l'euroscepticisme du candidat qui, selon les sondages, a gagné le débat, Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs est qualifié comme pro-russe par les médias en Russie. Mais parmi les candidats favorables à Moscou, on distingue aussi François Fillon, qui encore hier, d'ailleurs, sur les ondes de RFI, a estimé qu'il faut supprimer les sanctions européennes contre la Russie. Tout cela ne passe pas vraiment inaperçu par les Russes et par la presse russe. Et il paraît que Kremlin a ses préférences lors de ces élections. On a pu voir à travers de la presse, mais pas seulement. Souvenez-vous, il y a encore récemment, Marine Le Pen a été reçue par Vladimir Poutine à Kremlin. Et c'est la première candidate et pour le moment, la seule qui a été reçue par Vladimir Poutine.
Alors justement, ça nous emmène à évoquer le cas de Marine Le Pen. Et on va en parler avec vous trois, la candidate du Front National, toujours très bien placée dans les sondages, et qui est observée de près à l'étranger. On reste en Russie. Marine Le Pen est-elle appréciée en Russie?
Oui, la candidate de l'extrême droite a une forte présence aussi dans l'internet russe. Il faut le dire qu'un compte sur Twitter qui s'appelle Zamarine, qui se traduit pour Marine, a été créé encore en 2009 en langue russe, je précise, et aujourd'hui a plus de 40 000 abonnés. Ce qui est assez curieux, c'est que l'on retrouve également des comptes des membres du Front National dans les réseaux sociaux russes, notamment le site Vkontakte. Et d'après que je sache, il parle pas couramment russe pour connaître bien comment ça fonctionne ces réseaux sociaux russes. En tout cas, ils sont présents. Comme vous voyez, ils sont assez présents et actifs dans l'internet russophone dans leur globalité.
Alors, est-ce qu'ils sont également présents en Amérique latine? Je reviens vers vous, Lucille Gimbert, quelle présence du Front National dans les médias latino-américains.
Marine Le Pen est l'une des personnalités politiques françaises actuelles les plus connues dans la région, avec Hollande et Sarkozy notamment. Ces derniers mois, la presse latino-américaine a relayé évidemment les déboires judiciaires du candidat Fillon, le conservateur. Son enfarinage à Strasbourg hier, d'ailleurs repris ce matin par un journal péruvien sur son site internet La Repubblica. Emmanuel Macron fait aussi l'objet d'articles. Il est présenté comme le favori, le jeune nouveau de cette politique française. Le site internet Infobae, qui est connu pour ses titres un peu racoleurs, parle même de lui comme du Kennedy français. Mais c'est surtout, il faut le dire, la candidate d'extrême droite et ses chances éventuelles d'accéder à l'Élysée qui intéressent les médias latino-américains. Ils vont donc scruter ses résultats le 23 avril prochain. Ils parlent de son parti comme d'un parti anti-européen, xénophobe et anti-mondialisation, et observent avec beaucoup d'attention cette élection en France dans le contexte d'une Europe qui est qualifiée de vacillante.
Mais on va justement parler de l'Europe et parler encore de la position de Marine Le Pen. En Roumanie, cette fois, Matei Vișneac, la position de Marine Le Pen toujours très haut dans les sondages qui inquiète la population roumaine. La candidate du Front National, on le rappelle, qui souhaite une sortie de la France de l'euro. Cette présidentielle, donc, a des allures de référendum, vous dites, sur l'Europe.
Oui, on a peur à l'Est, en Roumanie de toute façon, qu'après le Brexit, on aura un Frexit. Donc on se demande beaucoup, est-ce que c'est possible? C'est assez bizarre quand même que Marine Le Pen puisse avoir ce rôle énorme. Il y a une angoisse, donc, Marine Le Pen dans les pays de l'Europe de l'Est et en Roumanie, parce que pour nous, elle incarne la sortie de la France de la zone euro. Si la France quitte la zone euro, c'est comme si toute la construction européenne en ce moment, l'architecture actuelle pourrait s'écrouler. D'ailleurs, il y a cette angoisse aussi en Roumanie parce que, vous savez, il n'y a pas d'extrême droite en Roumanie. Pratiquement, elle est inexistante. Même le côté populiste, il est très faible. Donc, il n'y a pas une base médiatique de sympathie pour Marine Le Pen. D'ailleurs, il y a aussi une angoisse provoquée aussi par Jean-Luc Mélenchon parce que lui, il est perçu comme un leader d'extrême gauche. Or, dans cette partie du monde, les pays de l'Europe de l'Est, l'extrême gauche non plus n'est pas très aimée et appréciée.
Alors, vous réfléchissez à la rédaction roumaine, à cette campagne présidentielle française que vous suivez tous les jours. Est-ce qu'elle peut être, cette campagne, une leçon de démocratie pour d'autres pays? C'est la question que vous posez, notamment les pays d'Europe de l'Est où la pratique de la démocratie finalement est récente.
Vous savez, dans ces pays où la pratique démocratique est récente, on regarde beaucoup vers les pays avec une grande tradition démocratique. On se dit, on a toujours quelque chose à apprendre. Par exemple, la France, on nous a toujours donné une leçon de style. On disait toujours, en France, les politiques, ils jouent autrement, ils sont plus courtois, ils parlent, bien sûr, ils se contredisent, mais d'une autre manière. Or, cette fois, j'ai l'impression que le style en France a beaucoup souffert, parce que la bataille est beaucoup plus rude. Alors, la courtoisie française, en ce moment, a reçu un gros coup. Bon, c'est pas grave, c'est la politique, c'est comme ça. On se dit, voilà, même chez les grands, on peut parfois baisser un petit peu le niveau en ce qui concerne le style. Il y a d'autres choses surprenantes. Par exemple, on est très attentif à ce sujet, la corruption. Mais vous savez que, par exemple, en Roumanie, le cas Fillon, enfin le scandale autour du Fillon, ça n'aurait pas pu avoir lieu parce que, tout simplement, la loi roumaine prévoit l'interdiction totale d'employer sa famille ou des membres de sa famille par un député ou sénateur. Donc, la lutte contre la corruption en Roumanie, quand même, a permis la création d'un système législatif assez intéressant. On suit toujours. Je pense que les primaires ont été cette fois une leçon de démocratie plus intéressante que actuellement le débat.
Lucille Gimbert, vous voulez réagir?
Juste réagir en disant qu'effectivement en Amérique latine, on a une perception similaire sur le cas Fillon où la presse se fait écho d'une incrédulité. Comment ce candidat continue malgré ses procédures judiciaires en cours?
Matei Vișneac, dernier point sur justement cette campagne présidentielle française. Vous relayez à la rédaction roumaine le point de vue des correspondants des médias étrangers concernant les débats, concernant les polémiques actuelles en France. Qu'est-ce qu'ils disent ces médias étrangers? Ils ont une analyse pas tendre de la situation.
Oui, vous savez, nous les Roumains, on est toujours curieux de voir ce que les autres disent sur nous. Alors on est curieux aussi de voir ce que les autres disent sur les Français. Et puis bon, j'ai toute une collection d'adjectifs, des qualificatifs. Il y a des étrangers, des journalistes étrangers qui disent que la campagne actuelle est insipide, lamentable, pathétique, folle, anormale, atypique. Bon, j'arrête, j'ai une trentaine dans ma collection de mots comme ça. Mais une chose est sûre, il y a un intérêt énorme et il y a aussi ce paradoxe. J'ai peur, et d'autres avec moi, que c'est le Brexit qui a créé cet intérêt énorme, et aussi le spectre de Marine Le Pen qui puisse peut-être gagner les élections. Donc, dans ce contexte-là où il y a le spectacle qui se glisse aussi dans la couverture d'un événement important, il y a ce côté attente de la catastrophe pour pouvoir encore plus glosser et présenter le spectacle de la catastrophe.
Accent du monde sur RFI, c'est la radio mondiale dans sa diversité. Ce soir avec nous en studio, la rédaction hispanophone, russe et roumaine. On va s'intéresser à présent aux sujets qui vous ont le plus marqué cette semaine dans vos rédactions respectives. Et d'abord, ce qui fait la une ce soir de l'actualité internationale, les frappes américaines menées la nuit dernière contre le régime syrien de Bachar al-Assad, une base aérienne touchée. Ça fait vivement réagir la Russie alliée du président syrien. Et là, je me tourne vers vous, Elena Gabrielian, la Russie qui a dénoncé une agression contre un État souverain. Les réactions en Russie toute la journée se sont multipliées.
Oui, depuis ce matin, les agences russes recueillent ces réactions. L'agence TASS partage avec ses lecteurs quelques-unes. Pour le représentant russe à l'ONU, c'est un signal direct de la préparation d'une opération militaire par les Américains. Les conséquences seront sur la conscience de ses responsables, a déclaré Vladimir Safronkov. Selon Kremlin, ces frappes vont dégrader les relations russo-américaines et auront un impact négatif sur la lutte contre le terrorisme. Cela remet en question une coalition antiterroriste commune entre les Américains et les Russes, dont on espérait tant à Moscou après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Alors que les Occidentaux remettent la responsabilité pour l'attaque chimique sur le régime syrien, le ministère russe de la Défense a annoncé que l'aviation syrienne avait attaqué en entrepôt de munitions des terroristes contenant des arsenaux d'armes chimiques, je le cite. Le chef du comité international du Parlement russe, Leonid Sloutsky, aujourd'hui a avancé une autre version. Pour lui, cette attaque chimique aurait pu être une provocation dans le but d'impliquer les Américains dans le processus de destitution du régime d'Assad. Dans toutes ces réactions, on entend quand même que Donald Trump est imprévisible et peut entreprendre d'autres actions en Syrie. Et c'est la première grave crise entre Moscou et Washington depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.
Voilà pour les réactions sur le plan politique en Russie, donc des réactions assez fermes, hein. Qu'en est-il du côté des experts russes? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces frappes qui ont été menées donc la nuit dernière par Washington?
Certains experts en Russie considèrent que c'est juste une action pour démontrer que les Américains ne s'écartent pas du terrain syrien, malgré ce qu'on pourrait croire avant, au début de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pour le président américain, il faut montrer la force pour se faire respecter et pour prouver qu'il est en train de « make America great again », comme il disait son slogan pendant la campagne électorale. Donc voilà un peu quelques commentaires des experts russes. L'expert sur les questions de la défense, Alexandre Goltz, qu'on a interviewé, considère que Donald Trump va agir comme il veut, sans consulter véritablement qui que ce soit. Selon lui, la situation est assez dangereuse. Je propose de l'écouter.
Alors, que nous dit-il?
Alors, Alexandre Goltz nous dit que cela porte sérieusement atteinte à la réputation de Vladimir Poutine, car la Russie a déployé en Syrie le système de la lutte anti-aérienne, en faisant comprendre à tout le monde qu'en cas de frappe contre Assad, elle interviendrait. En l'occurrence, Moscou n'est pas intervenue, mais elle a annoncé la suspension du mémorandum avec les Américains sur la sécurité des vols en Syrie, ce qui veut dire que les Américains n'ont plus d'obligation d'informer les Russes sur leurs actions en Syrie. Et la Russie aussi se réserve le droit de faire ce qu'elle estime nécessaire. Donc il s'agit d'une surenchère, selon cet expert. Et on s'est retrouvé dans une situation extrêmement dangereuse où la confrontation entre les deux armées devient possible. La Russie, en quelque sorte, a réussi à faire du chantage contre Obama, qu'une telle situation pourrait arriver. Et l'ex-président essayait de l'éviter, mais pour le Trump, il n'a pas peur et ça peut finir mal.
Voilà pour les réactions russes après les frappes américaines donc menées la nuit dernière contre la Syrie. Autre actualité en Amérique latine, la tragédie de Mocoa, la coulée de boue qui s'est produite il y a 6 jours en Colombie. Lucille Gimbert, le dernier bilan de cette tragédie dépasse les 300 morts.
Oui, c'est des voitures détruites, des maisons emportées, des zones entières recouvertes de roches, d'arbres arrachés et de boue. Cette avalanche de terre et d'eau, comme on l'a décrit en espagnol, a détruit une grande partie de Mocoa. C'est la capitale du département de Putumayo. Elle a affecté 45 000 des 70 000 habitants de cette ville amazonienne. Et le bilan, vous le disiez, s'alourdit de jour en jour. On a plus de 300 morts, dont 100 enfants, plus de 300 blessés et au moins autant de disparus. Beaucoup des zones touchées sont des quartiers pauvres où vivent des personnes qui sont déplacées par le conflit armé. Et puis aujourd'hui, on est 7 jours presque après la crue et le débordement simultané de ces trois fleuves de la région. Eh bien, les militaires, les secouristes et les organisations civiles sont sur le pied de guerre pour donner un abri, tenter de réconforter, de répondre aux besoins les plus urgents en énergie, en eau potable. Et le gouvernement de Juan Manuel Santos a déclaré l'urgence économique, sociale et écologique.
Il est temps de tirer les leçons, de se poser les bonnes questions. Est-ce que cette catastrophe, par exemple, aurait pu être évité.
Ouais, c'est l'avis de nombreux spécialistes qui connaissent la région. Ils considèrent que face à l'allongement et l'intensification des pluies en raison du changement climatique, les autorités de Mocoa, n'auraient pas proprement mesuré l'ampleur des risques. C'est en tout cas ce que nous a dit le géologue de l'Université nationale de Colombie, Germán Vargas. On l'écoute.
Les municipios deben contemplar el tema de riesgo.
Alors, que nous dit ce géologue?
Alors, il estime que les municipalités ont l'obligation de prendre en compte ces risques d'inondation dans les plans d'ordonnancement territoriaux et que plusieurs études avaient déjà alerté sur les risques concernant Mocoa, mais que beaucoup de quartiers continuent de pousser et d'être construits sur des zones inondables. Les organisations écologistes pointent aussi du doigt la déforestation qui aggrave la situation. Elle est favorisée par l'urbanisation non maîtrisée et par l'expansion de l'agriculture. Dans ce cas-là, on parle d'huile de palme et d'élevage de bœuf dans cette zone de la région de Mocoa. Et puis, d'après cette étude de l'Université nationale de Colombie, à laquelle a participé ce géologue qu'on entendait, 385 municipalités du pays pourraient affronter une catastrophe similaire si rien n'est fait.
Et d'ailleurs, le ministre de l'Environnement colombien l'a officiellement dit, la tragédie de Mocoa est une alerte pour tout le pays.
Oui, et le gouvernement affronte déjà des critiques dans ce sens. Le drame de Mocoa arrive dans un contexte où la politique de paix du président Juan Manuel Santos, qui a donc négocié la paix avec la guérilla des FARC, une politique de paix fortement critiquée par l'opposition. Au lendemain de la catastrophe, les partisans de l'ancien président ultra-conservateur Álvaro Uribe a maintenu une manifestation contre Santos à Bogota. Un sénateur de son parti a même déclaré qu'il avait des informations prouvant que cette coulée de boue aurait été causée par des explosifs laissés par les FARC. Il a ensuite démenti. On peut, sans beaucoup de difficultés, parler de récupération politique, mais de toute façon, Santos marche sur des œufs parce que sa popularité est déjà très basse. Dans les sondages, il est crédité d'à peine 20% d'opinion favorable.
On termine avec la rédaction roumaine et une actualité européenne à la une de votre rédaction cette semaine, Matei Vișniac, avec Bucarest qui se prépare à assumer la présidence de l'UE. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, ce sera au premier semestre de l'année 2019, mais il en a été question cette semaine à l'occasion d'une visite à Paris du ministre roumain des Affaires européennes.
Oui, vous savez, le temps passe vite, alors la Roumanie veut lancer une réflexion. Comment faire pour que les pays de l'Europe de l'Est puissent avoir un rôle plus important dans le cadre de la construction européenne et pourquoi pas la Roumanie aussi, parce qu'elle est très pro-européenne. Donc c'est Madame Anna Birchel qui est venue à Paris, qui a discuté avec son homologue français, Alain Désir. La Roumanie et d'autres pays de l'Europe de l'Est n'aiment pas trop ce scénario de l'Europe à plusieurs vitesses. Donc voici ce que le responsable roumain disait tout à l'heure, il y a quelques jours.
Am vrut să ne facem auzită și vocea, a formaliza viteze.
Est-ce que vous pouvez nous traduire ce qu'il dit?
Elle dit voilà, on veut entendre notre voix et ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Voilà donc un avis. Dans quelle direction va l'Europe? C'est d'abord important à décider. Après, on verra à quelle vitesse, à combien.
Un dernier mot, la Roumanie et la France qui préparent aussi une saison culturelle commune. C'est prévu pour 2018. Dans quel contexte est-ce que cela va se dérouler, Matei?
Oui, la Roumanie moderne est née en effet après la Première Guerre mondiale, en grande partie grâce à la France et au traité de Versailles. C'est le traité de Versailles qui a reconnu à cette époque-là donc l'appartenance de la Transylvanie à la Roumanie. Donc pour la Roumanie, 2018 signifie un siècle d'unité nationale. Il y a donc cet agenda culturel commun qui se prépare en ce moment avec beaucoup de détails. Parmi d'autres, une partie de ces actions, manifestations, auront lieu dans la commune qui s'appelle Général Bertolo en Transylvanie.
C'est bien noté, Matei Vișniac de la rédaction roumaine ce soir dans Accent du Monde. Merci également aux représentants des rédactions hispanophones et russes ce soir dans le studio de RFI Accent du Monde qui touche à sa fin. Émission réalisée ce soir par Olivier Roux. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes, c'est le retour de l'info.
Musique du Monde,